Avec Roselyne Bachelot qui nous a rejoint ce soir,
bonsoir,
l'ancienne ministre. Bonsoir Roselyne Bachelot, Alain Duhamel, bien sûr. Bonsoir Alain.
Bonsoir Alain.
La question, elle est toute simple, ce qui va se passer dans les prochaines heures à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut imaginer le gouvernement chuter à cause de la réforme?
Écoutez, je crois que on entre dans une phase de brouillard givré comme on n'en a jamais connu sous la Ve République. Pour Elisabeth Borne, ou bien elle présente le texte. Si le texte est voté, elle est confortée. Si le texte n'est pas voté, elle est en sursis. Ou bien, il faut avoir recours au 49-3, ça se décidera au dernier moment, au 49-3. S'il y a une motion de censure qui est votée, comme Charles de Courson essaye d'organiser, à ce moment-là, dissolution, démission, dissolution, ou bien la motion de censure ou les motions de censure ne sont pas votées, mais elle est de toute façon non seulement très affaiblie parce qu'elle a employé le 49-3, mais en plus, on le sait déjà, la contestation sociale se radicalise, y compris avec la CFDT. C'est des perspectives qu'on n'a pas connues sous cette forme-là.
Mais est-ce qu'il y a vraiment suspense? Est-ce que vraiment, jusqu'à jeudi, on ne sait pas ce qui va se passer, Roselyne Bachelot, au fort de votre expérience?
Tout dépend d'une vision théorique des choses ou d'une vision pragmatique de cette situation. Sur le plan théorique, effectivement, Elisabeth Borne est menacée par le fait que la majorité est relative, qu'on peut très bien imaginer qu'une motion de censure qui serait déposée par le groupe charnière qu'on appelle Liotte et qui est justement, ou monsieur Charles de Courson, qui est une personnalité respectée de l'Assemblée nationale à son commandement, à son impérium.
C'est un vertueux implacable, comme tous les
voilà,
vertueux.
C'est ça, c'est
30 ans de mandat.
C'est une sorte de saint
30
juste.
Ans de mandat cette année.
7 mandats successifs, je connais bien. Et donc, on peut imaginer que ça pourrait coaguler des partis LFI qui voteraient jamais la motion de censure d'un Rassemblement national ou vice-versa. On peut imaginer qu'il y a une coagulation de la motion de censure autour de ce groupe charnière. Maintenant, il faut reconnaître que les députés en place, et là c'est dans ça que je parle de la théorie à la pratique, on n'aime pas beaucoup voter les motions de censure parce qu'on se dit qu'on est sur un siège éjectable et que vraiment, à l'heure actuelle, dans les cartes telles qu'elles sont distribuées, on ne sait pas du tout ce que ça peut donner.
Vous n'y croyez pas à la motion de censure?
Ça serait quand même à l'avantage du Rassemblement national.
Sans doute, donc.
Vous n'y croyez pas, vous, la motion de censure?
Alors, à son succès, non. Je vois aussi qu'il y a une chose, que tout n'est pas perdu dans un vote positif sur le texte. On voit que les gens se déploient. À mon avis, la réunion qui a eu lieu dimanche soir à Matignon était pour dire au ministre, écoutez, vous êtes là, vous avez un certain nombre de relais dans le groupe, dans les groupes politiques, vous allez vous activer un peu, parce qu'il faut dire que l'ensemble du gouvernement a souvent été aux abonnés absents, à part les 3 ou 4 qui sont vraiment aux manettes. Un gouvernement, tous ensemble, ils doivent faire de la politique et pas être...
C'est-à-dire appeler chaque député pour les convaincre?
Mais bien sûr. Ensuite, il y a eu une réunion qui a été organisée hier par Aurore Berger, où elle a réuni les représentants du Modem et de Horizon.
Ça a fonctionné, puisque maintenant 100% des députés Modem disent qu'ils vont voter la réforme, même M. Ramos, qui sera avec nous tout à l'heure, qui a changé d'avis.
Voilà, on sent bien que les chiens de berger, sans jeu de mots, pardon...
Excellent.
Oui, c'est pas de très bon goût, pardon. Mais sont en train de rassembler le troupeau en leur disant, écoutez, jouez pas avec le feu.
C'est chez LR que ça se joue, Alain Duhamel, et là, c'est la grande inconnue.
D'abord, LR, il faudrait le mettre au pluriel en permanence, maintenant. LR, ce n'est plus un parti, ça n'est plus un groupe parlementaire. LR, ce sont des diverticules.
C'est la droite plurielle.
C'est la droite plurielle.
C'est la droite explosée.
La droite explosée. À l'intérieur d'elle-même. C'est la droite même en voie d'atomisation, si ça continue. Mais si, comme c'est souhaitable et comme c'est probable, il y a un vote, autrement dit, si le texte est vraiment présenté. Et si, par hypothèse, c'est après-demain, si par hypothèse, il y a un scrutin favorable. Bon, c'est tout à fait possible. Je dirais même qu'aujourd'hui, c'est plutôt du, comme je vous le disais hier ou avant-hier, du 55-45.
Mais pour un vote.
Pour un vote positif. Mais N'importe quoi peut se passer. Il peut y avoir une déclaration malheureuse demain. La commission paritaire peut mal se passer pour une raison X. Enfin, tout peut encore arriver.
Si on dit que c'est une réforme de gauche, bon, par exemple.
Enfin, voilà. Oui, parce que là où je suis, là où je suis légèrement décalé par rapport à Roselyne, c'est que il y a eu deux catégories de ministres dans l'ensemble. Il y a eu ceux qui se sont tus. Et il y a eu ceux qui ont dérapé.
Oui, c'est ça, oui, disons. Et
vous mettez Olivier Dussopt dans cette catégorie ?
Évidemment. Quand on dit que cette retraite est une retraite de gauche, franchement...
Pour convaincre la droite, c'est difficile.
Non, mais faut surtout, c'est prendre les Français pour des imbéciles. Évidemment, c'est pas une retraite de... Enfin, bon, on le sait bien tous. Mais surtout, il faut pas croire que ça va s'arrêter, quelle que soit celle des quatre solutions possibles jeudi soir... C'est un début. C'est un début d'une phase qui est une phase, d'ailleurs, imprévisible et surtout parfaitement instable. Et c'est ça qui est différent. Il y a eu d'autres crises sous la Ve République.
Oui, c'est pas la
Mais
première.
Une crise aussi indéchiffrable, instable et complexe comme celle-là, il y a eu mai 68.
Alain, on voit quand même que la position de LR et de certains LR vont être cette position va être compliquée. Quand on voit par exemple M. De Filippo, qui est un des lieutenants de Laurent Wauquiez, dire qu'en tout état de cause, il ne votera pas cette réforme.
Mais c'est pour ça que je dis que c'est.
On se dit quand même, étant donné les prises de position de Laurent Wauquiez de façon continue depuis 10 ans sur la nécessité absolue de reculer l'âge de la retraite, dénonçant le cancer de l'assistanat, etc., etc. J'ai été au gouvernement avec Laurent Wauquiez et ses paroles, je les ai pas trouvées dans les journaux, je les ai entendues au cours de Conseil des ministres ou à l'Assemblée nationale. Il va être quand même en face de ses responsabilités.
Il ne les prendra pas.
Il ne les prendra pas. Vous êtes beaucoup plus sévère que moi.
Je pense qu'il ne les prendra pas. Et je pense qu'il ne les prendra pas parce que justement, il parie sur le fait qu'on entre dans une phase convulsive et que dans une phase convulsive, peut-être qu'un jeune homme silencieux portant beau a une petite chance.
Oui. Enfin, ça pose quand même quand... Laurent Berger a parlé d'un vice démocratique. Je pense qu'il ne voulait pas le dire dans la signification de quelque chose de vicieux, mais peut-être d'une malformation démocratique. Oui. Et que cette phrase, elle mérite d'être méditée. Parce que ce qui se passe est en train quand même de reposer les fondements institutionnels, la question des fondements institutionnels de la Ve République.
Ça pose même deux questions. Ça pose la première... le tournant de la CFDT en général et de Laurent Berger en particulier. Faut pas oublier qu'il y a quelques semaines, il disait comment il y a des politiques qui veulent se mêler de ce que font les syndicats. Et maintenant, c'est le syndicaliste le plus connu de France qui se mêle en permanence de la politique.
Bien sûr.
Donc, il y a forcément...
Il y a un mélange des genres, ouais.
Oui.
Est-ce qu'on n'a pas dramatisé le 49-3 qui, selon le calcul du journaliste Éric Mandonnet, il est utilisé jeudi, ça sera le 100e depuis le début de la Ve République. Oui. Est-ce qu'on n'a pas dramatisé, finalement, exercice assez banal?
Là où la chose de Laurent Mandonnet n'est pas très juste, c'est qu'il y a calculé les 49-3 sur une période beaucoup plus longue que celle qui est considérée là actuellement. Pardon, je vous ai interrompu.
Il est 100, c'est beaucoup.
Et puis il y a des 49-3 dans des périodes... Disons, sinon sereine, ça n'existe pas en politique, mais dans des périodes normales. Et là, on est dans une période anormale. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Parce que, par exemple, cette histoire que propose Valérie Rabault, la socialiste, cette histoire de référendum d'initiative partagée.
Et Stéphane Peu, le communiste, nous en parlait ici même hier soir.
Tout à fait possible. Oui. C'est possible. Et si c'est mis en œuvre...
Il faut expliquer pourquoi c'est possible.
C'est une initiative venue de 180 députés.
Oui, c'est ça. Il faut le cinquième des députés et il faut le dixième des Français.
Il faut 4 millions de signatures.
C'est ça. Bon, c'est possible. Je ne vous dis pas que c'est facile. Avec le numérique, maintenant, si c'est bien organisé, réunir des signatures...
Sur le réforme populaire.
Et écoutez, d'ailleurs, je vais prendre un exemple très simple et court. Il y en a déjà eu un exemple. Pour Aérodrome de Paris, et il y a eu 1 million de signatures. Bon, la plupart des Français se moquaient perdument de savoir à qui appartient Aéroport de Paris. Alors que, en revanche, deux ans de plus pour la retraite, il n'y a pas beaucoup de Français que ça laisse indifférents. Donc ça
pourrait passer, le RIP.
Mais ça peut passer, et ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que tout est repoussé de 9 mois. Vous voyez, quand je vous dis qu'on entre dans une période convulsive, différente, de ce qu'on a connu, c'est une période...
D'accord, mais c'est quand même un problème de légitimité, de remettre en cause la légitimité politique bien sûr. Et de ce qui se passe au Parlement.
Bien sûr.
Parce qu'à partir du moment où une loi est votée, normalement, on passe à autre chose, Alain Duhamel.
Mais maintenant...
Et d'ailleurs, Laurent Berger le dit, il a dit qu'il faudrait prendre acte du fait que la loi a été votée. Je pense aussi que dans l'inconscient, dans le conscient des Français, il y a le sentiment qu'effectivement, cette loi n'est certainement pas agréable, qu'elle est même douloureuse pour certains, mais que quelque part, ce remodelage...
C'est difficile d'y couper.
C'est difficile d'y couper. Et une fois que la loi sera votée, une fois aussi qu'on aura vu les inconvénients et même les dysfonctionnements qu'entraînent les mouvements de grève, on voit un certain épuisement. Moi, la radicalisation des mouvements de contestation après le vote, après un vote positif de la loi...
Même le 49-3
J'ai dit bien, après un vote positif de la loi.
De toute façon, maintenant, il y a quand même trois niveaux.
On voit d'ailleurs que le mouvement social s'essouffle. Demain, il y a une nouvelle journée, il y aura moins de perturbations.
Ça, c'est l'autre risque. Demain, il y a deux risques. Il y a le risque qui sera autour de la commission parlementaire.
Oui, là,
normalement, ils doivent se mettre d'accord. Je suis d'accord. Enfin, on verra bien. Bon, et il y a l'autre qui est l'essoufflement syndical. Mais le problème.
Et la violence peut-être dans la rue aussi, demain.
Alors, peut-être dans la rue demain.
Radicalisation.
Puisque théoriquement, d'après les renseignements, ce qu'on n'appelle plus les renseignements généraux, mais il y aura effectivement des.
Le renseignement territorial.
C'est mieux élevé. Il y aura effectivement des casseurs. Mais au-delà de demain, à partir de jeudi soir, donc disons de vendredi, en pratique, l'hypothèse d'une radicalisation de certains syndicats, je ne vous dis pas de tous les syndicats, etc., mais c'est tout à fait imaginable. Donc on est vraiment... Et aujourd'hui, on considère, par exemple, maintenant... Bon, le 49-3, ça n'a jamais été populaire. Mais on considère maintenant que le 49-3, c'est une offense au peuple. Alors si, quand il y a un 49-3 qui est utilisé, ça n'est pas démocratique.
Tout à l'heure, la sénatrice écologiste disait que le 49-3, c'était en gros la Hongrie, quoi. La Hongrie,
non,
la Pologne.
Mais le 49-3, il est tout à fait acceptable et accepté quand il s'agit des lois budgétaires.
Oui.
Parce qu'on comprend très bien que pour le budget, c'est le gouvernement qui est à la manœuvre, c'est les ministres qui sont responsables, c'est eux qui gèrent l'argent de la nation, et qu'il faut bien que ça fonctionne, il faut bien payer les fonctionnaires, il faut bien avancer. Et sur les lois, quelles que soient les lois générales, budgétaires ou les lois de financement de la sécurité sociale, bon gré mal gré, on accepte. Et puis il y a des lois sur lesquelles on pourrait imaginer que le 49-3, oui. Mais là, on est au cœur du pacte social. Et je crois que c'est ça qui fait que le 49-3 est... on peut d'ailleurs discuter sur le fait que ce soit au cœur du pacte social. Mais les Français le vivent comme ça.
Oui, mais je vous signale quand même, que d'ailleurs vous le savez très bien vous, mais que la procédure qui a été utilisée, c'est justement la procédure dans laquelle, normalement, on accepte bien les 49-3.
Mais oui, mais parce que justement, il y a un détournement.
Eh ben oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'on appelle un détournement de procédure. C'était probablement la seule voie possible, mais c'est la voie la plus périlleuse.